Si vous avez été attentif pour ceux qui étaient là, au moins ces deux ou trois derniers dimanches, est-ce que vous savez quelle semaine nous sommes? La question me semble très basique. Attention, il y a peut-être, non pas un piège, mais quelque chose qui ne va pas ressortir de manière évidente. Est-ce que vous savez quelle semaine nous sommes? Au niveau même international. Alors, ça cogite, une réponse peut-être, quelqu'un? Quelqu'un ose se lancer avec le risque de se planter? Alors, je vais vous éviter cela. Je vais vous donner la réponse que je pouvais attendre. Cette semaine, qui d'ailleurs je crois s'achève aujourd'hui ou hier, je ne sais plus trop, était la semaine de l'unité des chrétiens, de par le monde. Et quand je dis chrétiens, il faut autant au sens de toutes les familles chrétiennes dans leur grande diversité. Et chaque année, à peu près à cette même période de l'année, il y a proposition à toute communauté chrétienne d'essayer de se joindre avec d'autres qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, voire très mal, voire pas du tout. Cela dépend de chacun de nous, et d'essayer de célébrer, autant que nous le pouvons, de la manière qui nous semble le plus évident possible, de célébrer le Seigneur pour ce qu'il est. Cette semaine, chaque année, c'est un pays qui, quelque part, va proposer ce temps-là, et c'était l'île de Malte qui avait été choisie, et qui, pour cette année, nous avait proposé un sujet, un thème, dans cette idée de nous retrouver ensemble et d'essayer de glorifier le Seigneur ensemble, malgré nos grandes différences parfois. Les Maltais, qui donc s'étaient rassemblés entre eux déjà pour proposer à toutes les églises de ce monde de se retrouver une fois l'an cette semaine, avaient choisi de revenir sur un passage du livre des Actes, qui d'ailleurs nous parle de Malte. Oh, c'était certainement un peu voulu, mais ils y trouvaient aussi quelque chose d'important par rapport à une situation qu'ils vivent déjà depuis quelques années. Parce que c'est une île qui se trouve au plein milieu de la Méditerranée, entre et le continent africain et l'Europe, et c'est vrai qu'ils sont parfois un lieu de passage. Alors, je ne vais pas tout lire le passage parce qu'il se trouve être fort long. Dans ce livre des Actes, on se situe vers la fin, pour ceux qui se rappellent un peu de quand il s'agit de Malte. Paul, vous savez, vers la fin de son ministère tel qu'il est dit dans le livre des Actes, a un souhait absolu, c'est d'aller à Rome. Rencontrer ses frères et sœurs à qui déjà il s'adressa par son épître, mais il souhaite surtout les visiter, car simplement leur envoyer une lettre n'est pas suffisant, il a besoin aussi d'aller les voir. Et donc il a ce souhait, cela va prendre beaucoup de temps, il va rester emprisonné à Césarée pendant un long moment, puis enfin avoir quand même la possibilité de voyager, mais en tant que prisonnier, en tant que citoyen romain. Et il va faire un voyage par les mers. Alors, cela prenait du temps à l'époque. Il n'y avait pas de ferry qui faisait des croisières de toute la Méditerranée avec des arrêts touristiques pour aller voir les marchés des uns et des autres. Non, c'était un peu moins joyeux. Mais toujours est-il que voilà, il prit la mer et à un moment donné, il se trouve, je crois, si je ne dis pas de bêtises, du côté de l'île de Chypre. J'espère ne pas me tromper dans la géographie. Et puis, le capitaine a un projet, je crois, c'est de s'éloigner un petit peu des côtes pour essayer d'aller au plus vite, il me semble. Et Paul reçoit une interpellation du Seigneur et suggère autre chose. Bon, Paul, comme la grande majorité des Hébreux et des Juifs de ce temps, n'y connaît rien à la mer, en théorie. Le peuple hébreu n'était pas un peuple de marins. Bon. Ce qui fait que quand Paul vient s'adresser, alors je ne sais plus si c'est directement au capitaine ou au centurion qui veille sur lui, mais à qui il demande de passer le message aux marins du bord, il ne l'accueille pas trop son message, en lui faisant comprendre que bon, ce n'est pas forcément lui qui va leur dire quoi faire à bord d'un bateau quand même. Qui parmi vous est marin? Voilà, vous êtes à peu près comme moi. Si un de ces jours vous allez dire à un chef de ferry, par exemple, en lui disant « Je pense qu'il faudrait peut-être passer par la côte de machin truc », il va vous regarder avec des gros yeux en disant « Mais t'es qui toi pour me dire ça quoi ?» Bref, c'était un peu ça l'idée. Et prenons maintenant le récit en cours de route, je pourrais être un tout petit peu plus bref. Je vous propose donc d'aller regarder en Actes chapitre 27, et on va le prendre à partir du verset 18, parce que commence à avoir une tempête. Dans le cheminement que le capitaine a choisi, malheureusement, ils se font avoir par une tempête, pour le dire simplement. Et on se trouve déjà en plein milieu. Et on va aller même jusqu'au début du chapitre 28, donc c'est une assez longue lecture, même si je l'ai abrégée. Alors écoutons. Le lendemain, comme la tempête n'arrêtait pas de secouer le bateau avec violence, on l'a délesté d'une partie de sa cargaison. Le troisième jour, les matelots ont jeté de leurs propres mains tous les agrès du bateau de la mer. Il y a plein de termes techniques, les agrès, ce sont les cordages, essentiellement. Continuons. Pendant plusieurs jours, on ne voyait plus ni le soleil, ni les étoiles. La tempête continuait de faire rage et nous finissions par perdre tout espoir d'en sortir sains et saufs. L'heure est grave. Il y avait longtemps qu'on n'avait plus rien mangé. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. » Pardon, c'était la Crète, voyez, j'ai oublié déjà. « Vous auriez évité tous ces dégâts et toutes ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à reprendre courage, car aucun de vous n'y perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers s'est présenté devant moi et m'a dit « Paul, ne crains rien. » Il faut que tu comparaisses devant l'empereur et Dieu t'accorde la vie sauve pour tes compagnons de voyage. Courage donc, mes amis, j'ai confiance en Dieu, tout se passera comme il me l'a dit. Nous devons échouer quelque part sur une île. Alors, il n'avait pas de GPS et il ne savait pas la destination exacte par laquelle il allait passer. Mais il a l'assurance que ça va quand même se finir par un échouage. Continuons. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique quand, vers le milieu de la nuit, les marins ont eu l'impression qu'on approchait d'une terre. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, ils ont recommencé et trouvé le fond à 28 mètres. Ils se rapprochent, autrement dit. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont le jeté quatre ancres à l'arrière en attendant avec impatience la venue du jour. Alors les marins, qui voulaient s'enfuir du bateau, ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage sous prétexte d'aller amarrer une ancre à l'avant. Mais Paul a dit à l'officier romain et aux soldats « Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous ne pourrez plus être sauvés. » Alors, les soldats ont coupé les cordages retenant le canot et l'ont laissé tomber à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a encouragé tout le monde à manger. « Voilà 14 jours, leur a-t-il dit, que vous êtes dans l'attente sans rien prendre à manger. Je vous encourage donc vivement à prendre de la nourriture maintenant. Vous en avez besoin pour vous tirer de là. Encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Après avoir ainsi parlé, il a pris du pain et il a remercié Dieu devant tous. Puis il a rompu le pain et a commencé à manger. Alors, tous les autres ont repris courage et se sont aussi mis à manger. Nous étions en tout 276 personnes à bord. Une fois rassasiés, ils ont continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Mais lorsque le jour était venu, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. Ils entrevoyaient seulement au fond d'une baie une plage de sable. Ils ont alors décidé d'y faire échouer le bateau, si c'était possible. Les matelots ont coupé les câbles des ancres qu'ils ont abandonnés à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies de deux grandes rames servant de gouvernail et hissé au vent la voile de misaine au mât d'Artimon. Encore des mots de la marine, laissons tomber ça. Ils avaient mis le cap sur la plage quand le bateau a touché un banc de sable battu des deux côtés par la mer et s'y est échoué. L'avant s'est enfoncé dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous la violence des vagues. Les soldats avaient l'intention de tuer tous les prisonniers de peur d'en voir s'échapper à la nage. Mais l'officier désirait sauver Paul et les a empêchés d'exécuter leur projet. Il a donné l'ordre à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau, les premiers pour gagner la terre ferme. Les autres suivraient en s'agrippant à des planches ou à des épaves du bateau. C'est ainsi que tous sont arrivés sains et saufs sur le rivage. Une fois hors de danger, nous avons appris que notre île s'appelait Malte. Les habitants, qui ne parlaient pas le grec, nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et allait la jeter dans le feu quand la chaleur en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. En voyant l'animal suspendu à sa main, les habitants se disaient entre eux « Pas de doute, cet homme est un criminel !» Il a pu s'échapper à la mer, mais la justice ne l'a pas laissé vivre. Cependant, Paul avait d'une secousse jeté l'animal dans le feu et ne ressentait aucun mal. J'arrête là dans notre histoire parce que si ce long récit crée du drame, hein, il y a comme un suspense, hein, on a l'impression presque de se retrouver dans un film avec un profond drame qui se joue, où la tempête est forte, où les marins, même eux, craignent pour leur vie. Et pourtant, ce sont les seuls à bord qui ont l'habitude de prendre la mer et de faire face à certaines tempêtes. Et la tempête est si dure qu'on entend que pendant 2 semaines environ, tous se privent de manger. En même temps, pour ceux qui ont déjà été sur un bateau, allez, avec un force 4, force 5, c'est léger, un force 4, force 5, c'est pas la tempête que l'on craint. Mais déjà, ça secoue. Et quand on a quelque chose dans le ventre, ben, en général, qu'est-ce qui se passe? Ça ressort. Donc très souvent, par manque de sagesse, on pense qu'il est bon de ne pas manger. Mais on est quand même malade. Bref, 14 jours de privation, on peut imaginer, en dehors de l'eau, que leur force leur manque, la sagesse aussi, l'intelligence commence à défaillir, parce que quand on ne mange plus, on ne sait plus trop où on en est. Mais voilà, Paul, au milieu de tout cela, lui qui n'est pas un marin, en raison de sa foi, exhorte tout le bateau, exhorte l'équipage, exhorte les soldats qui sont là pour veiller sur lui, mais en tant que prisonnier ainsi que tous les autres. Et à la fin, la réponse que le Seigneur avait fait entendre à Paul se joue. Effectivement, quand le jour paraît, les marins le sentaient, la terre est pas loin, ils ont quand même leur expérience, ce sont des pros. Mais au jour même, ils voient tout d'un coup une plage. Leur salut est devant eux. Mais à cause de la tempête qui est toujours là, même si la plage est devant, on voit que même là, tout n'est pas encore joué. Mais le Seigneur a vraiment eu pour projet de veiller non seulement sur Paul, mais tous ceux qui étaient à côté de lui. Parce que Dieu désirait tous les bénir. Et il s'échoue, et le verset qui m'intéresse et qui va nous amener encore à lire un autre passage, non plus en Actes, mais dans un des évangiles, c'est le comportement qu'ont eu ces gens-là. Ces gens de l'île. Et je reste sur ce verset et je le relis une deuxième fois. Les habitants, verset 2 du chapitre 28. Les habitants qui ne parlaient pas le grec, qui était la langue répandue partout, hein, dans tout l'Empire. Aujourd'hui, c'est un peu comme l'anglais. Si vous partez à l'étranger, si vous ne maîtrisez pas ne serait-ce qu'un peu d'anglais, vous aurez beaucoup de mal à essayer de discuter avec d'autres personnes. Ben, le grec, c'était la langue indispensable à l'époque. Voilà pourquoi les mentionneurs. Je reviens sur mon verset. Les habitants qui ne parlaient pas le grec nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. C'est le verset que pour l'instant, je vous invite à garder en tête. Et j'aimerais que maintenant, on aille lire un dernier passage, plus court cette fois-ci, dans l'évangile de Matthieu. Et c'est sur celui-là que je vais m'appuyer, surtout, tout en le mettant et en faisant écho au premier récit que nous avons lu. L'un est un récit, celui que nous allons voir en Matthieu 25, est un enseignement du Christ, qu'on peut-être on connaît mieux, parce qu'on l'entend régulièrement. Donc Matthieu 25, et à partir du verset 31. Écoute. Alors, oui, j'attends, voilà. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui, alors il les divisera en deux groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Après quoi, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. » Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements, j'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison et vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger ? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire ? Ou quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ? Et le roi leur répondra, « Vraiment, je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » Je vous propose de nous arrêter là. Il y a une suite, il s'adresse au bouc, le message est complètement différent. Mais ce n'est pas celui qui m'intéresse le plus aujourd'hui. Et là encore, de tout ce passage-là, je veux retenir un verset en particulier. Et je vous le redonne. C'est celui qui dit « car j'ai eu faim ». C'est le roi qui s'adresse au groupe des brebis. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. » Un peu plus tard, je reprendrai encore quelques autres versets de ce passage. Cette parole de Jésus, dans cette parabole, il me semble, fait tout de même, plus ou moins, écho à l'attitude de ceux que tout à l'heure nous avons entendus dans le livre des Actes, à propos de ces gens de cette île qui, quand le bateau, les gens autour du bateau voient enfin l'île, ne savent même pas où ils sont. Pourtant, ce sont des marins, ils ont circulé, bourlingué certainement déjà plusieurs fois sur la Méditerranée, mais celle-là, ils ne la connaissent pas, ils ne la reconnaissent pas. D'ailleurs, dans certaines vieilles traductions de la Bible, peut-être dans la seconde, je ne sais plus, quelques-uns me le confirmeront peut-être après, que parfois le mot qui est employé parle de barbares. Les gens de l'île sont des barbares. Alors attention, quand on entend le mot barbare aujourd'hui, on s'imagine des espèces de fous furieux qui sortent des haches, viennent massacrer des villageois. Non, ça n'a rien à voir. Le barbare dans la langue grecque est l'étranger, celui qui ne me connaît pas, celui qui parle une autre langue. Rien de plus. Alors, du côté du bateau, il voit les gens de cette île-là comme des barbares. C'est un peu exagéré tout de même, mais ça montre la distance, la différence, le fait qu'ils ne se comprendront pas, qu'ils ne se comprennent pas au moins au tout début. Mais ces barbares, pour garder le mot un petit peu étonnant, font preuve d'une bienveillance peu ordinaire. Et Luc, le compagnon de Paul, lui, le médecin, qui d'ailleurs suit Paul, alors que lui n'est pas prisonnier, mais il suit, il est sur le bateau, il vit cela aussi, c'est pour ça qu'il le dit ainsi. Ose regarder ces barbares et dire d'eux qu'ils ont une bienveillance peu ordinaire. Ces gens-là, ce sont tout bonnement les habitants, effectivement, de l'île de Malte. Ces gens sur lesquels s'est échoué ce bateau. Un bateau qui avait pour cargaison essentiellement des prisonniers, plus des biens commerciaux qui certainement étaient avant, mais que tout a été jeté, tout est perdu. Le succès commercial de cette équipée est foutu. Je reviens sur leur attitude à ces Maltais, tout d'abord, parce qu'il a une belle illustration. Ils offrent et proposent à tous ces naufragés, qui ont quand même subi plus de 2 semaines de tempête, de privation, de difficultés et surtout de terreur, car ils pensaient tous, y compris les marins, qu'ils allaient périr. Leur attitude est quand même heureuse, bienveillante, car rappelez-vous ce qu'ils font. Ils offrent un feu, ils les soignent, ils voient qu'il fait mauvais, etc. Et un peu plus loin, je n'ai pas été lire, mais le big boss de l'île, le haut dignitaire de l'île, lui-même va les accueillir. Et suite à cela, il va aussi y avoir quelques miracles qui vont amener aussi à faire connaître l'Évangile. Mais ça, c'est tout autre chose. Je le laisse pour une autre fois. Mais je reprends encore ce qu'a dit Jésus tout à l'heure. Quand lui, dans cette parabole, dit ceci à ceux qu'il appelle ses brebis, ce groupe qu'il a mis de côté et qui, quelque part, vont faire partie de son royaume. Parce que la parabole joue du royaume. Il y a ceux qui n'en feront pas partie, les boucs, on n'a pas été lire plus, et les brebis. Et aux brebis, et ceux qui vont maintenant vivre pleinement la réalité de son royaume, il leur dit « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. » Et là, je l'ai mis en gras. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous. Alors je joue à chaque fois entre les deux récits, j'essaie de ne pas vous perdre. Je reviens encore un tout petit peu sur le récit de Paul. Notez bien qu'au jour du naufrage de Paul et de ses compagnons, 276 je crois, le nombre, c'est quand même copieux. Qui étaient vraiment les barbares à ce jour-là? Franchement, très honnêtement. Entre les Maltais, ces gens qui ne parlent pas le grec et qui habitent cette île-là, qui sont chez eux, et puis des gens qui débarquent d'un bateau, qui surgissent à la nage, sur des planches, qui doivent avoir un peu l'air vidé, tout palo, etc., etc. Et puis surtout trempés, peut-être un peu abîmés de partout, blessés aussi, pourquoi pas quand même. Qui sont les barbares dans l'histoire? L'étranger. Est-ce vraiment les Maltais? Si on prend un peu de recul, on ne fait pas partie de l'un des groupes. Il me semble que ce sont plutôt les naufragés qui sont les barbares. Ces étrangers, ils échouent sur la plage, ils n'ont pas souhaité être là, mais ils tombent. Ils tombent dans je ne sais où. Et ils sont là. Et ces gens de Malte, pour certains peuplades, parfois avaient l'habitude d'allumer des feux, d'attirer les bateaux, de les faire s'échouer, puis de vider et de récupérer leur cargaison. Eux n'ont pas cette attitude-là. Eux, ils vont au contraire les accueillir, alors qu'ils ne connaissent rien d'eux. Sachant qu'en plus, il y a des prisonniers, et ils le voient. Parce que quand Paul se fait mordre, j'ai juste lu ce petit verset-là, ils se disent, alors lui, c'était aussi un criminel, mais voyez comment son Dieu ne le laisse pas vivre. Il lui permet de quand même être châtié. Or, ça ne va pas arriver. Mais c'est Maltais qui voit ces gens-là, dont quand même une bonne cargaison de criminels, donc de gens pas très sympathiques, certainement, hein. Peu importe les cultures, on sait le voir, hein, on sait le comprendre, on se fait plein d'idées là-dessus. Et pour autant, il les accueille tous. Oui, l'accueil manifesté par les gens de mal, y compris par le plus haut de ses responsables, un certain Publius, c'est juste un peu après, témoigne de cette vraie grande bienveillance, d'une considération élevée de leur hôte. Peu importe qui ils sont, quitte à même ce soit des prisonniers, nous avons le devoir de les accueillir. Ça, c'est ce que nous voyons dans le récit de Paul, et quelque part, il y a une démonstration là d'une bienveillance et d'un accueil qu'on ne voit jamais, ou presque jamais, aujourd'hui. Ou rarement, disons-le. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont capables de cela, en termes de peuple, hein. Dites-le-moi où ils sont, parce qu'il faudra aller les visiter et les saluer. En tout cas, en Europe, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui. Mais la générosité, et je reviens maintenant sur le temps de l'évangile, de cette parabole de Jésus... La générosité que Jésus souligne dans cette parabole, chez ceux qu'il appelle dans la parabole les brebis, a quelque chose quand même de différent. Et c'est cela sur lequel maintenant je veux m'arrêter, pour chacun d'entre nous. En effet, dans la parabole de Matthieu, les personnes qu'il appelle les brebis ont une réaction étonnante. Alors j'ai pas lu, on l'a lu tout à l'heure le passage, mais je ne l'ai pas repris. On va le faire là. Les brebis à qui Jésus leur dit ça, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, etc., etc., sont surprises. Sont surprises de ce que Jésus leur dit là, que le roi leur dit là. On entend bien que le roi c'est lui-même, c'est Jésus. Car la raison chez le roi qui a fait retenir son attention et de les mettre, eux, dans ce groupe-là et d'en faire ses brebis, celle qui d'ailleurs va les amener à appartenir à son royaume et de bénéficier de ce grand privilège, et les autres n'en ont pas le droit, hein. Je vous spoil la fin, mais bon, vous la devinez certainement pour plusieurs. Ils sont surpris et écoutés à nouveau ce que eux-mêmes viennent à dire au roi quand il leur fait savoir cela. « Mais Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim ?» Et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ? Ils ne comprennent pas. Ou quand avons-nous vu étranger et avons-nous accueilli ? Ou nu et avons-nous vêtu ? Ou même malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ? La surprise est de taille pour eux. Ils ne comprennent pas ce que Jésus vient de leur dire. Ils n'ont jamais pensé avoir fait cela, tout simplement. Car, et je vais rester sur le mot des brebis, car aucune d'elles n'a vu ou voulu attirer sur elle les faveurs divines par sa propre attitude en allant faire ceci, cela, de toutes les choses décrites là. L'étonnement des brebis réside plus encore même dans le fait qu'ils n'ont perçu dans les personnes qu'ils ont été soulagés, soutenir, écouter, tout ce que vous voulez. Ils n'ont jamais perçu dans ces personnes... Ceux que Jésus, d'ailleurs, appelle ses petits, ses frères, suivant comment on le comprend. Et c'est bien là ce qui, d'ailleurs, les distingue, ces brebis, de l'autre groupe. Je n'en parle pas plus. Ces brebis-là, ce groupe-là de personnes ont témoigné d'une générosité peu ordinaire, pour reprendre presque l'expression que Luc emploie à propos des Maltais. Attention, je ne dis pas que ce sont les mêmes choses. Mais ces brebis ont témoigné, tout simplement pour le dire encore autrement, d'une générosité qui est semblable à celle du Christ. Par leurs actes généreux, leurs gestes de bienveillance, elles n'ont nullement cherché un intérêt particulier. Elles n'ont nullement désiré s'acquérir ce royaume par leurs actes. Le mériter, jamais. Car ce dernier, d'ailleurs, nous le disons, nous le confessons, Mais parfois, nous ne fonctionnons pas toujours exactement comme cela. Ce dernier, ce royaume de Dieu, ne peut être, nous le savons, reçu et seulement et uniquement que par grâce. Ainsi, le roi, c'est-à-dire Jésus, leur fait savoir que c'est à cette attitude qu'il les a reconnus comme étant ses brebis, ceux qui vont être au privilège de son royaume, désormais. Car c'est le moment du jugement, dans la parabole. Vient le moment du jugement, autrement dit, de la séparation. Oui, c'est à, alors pour essayer de le résumer, ce que sont les brebis, ce qui les résume, ce qui les distingue de tout autre, c'est à cette attitude désintéressée. À cette volonté de témoigner un même amour que celui que le Christ a offert à l'humanité. Et c'est à cela que Jésus d'ailleurs reconnaît ses brebis. Alors attention, n'allons pas pousser trop loin et de dire maintenant le salut se gagne par nos actes. Hein. Surtout pas. Ce serait le plus grand des dangers. Justement parce que c'est une attitude désintéressée que Jésus voit et reconnaît et qui lui fait savoir qui sont ses brebis. Pas une attitude calculée. Et c'est là l'appel que les seigneurs, le prince de paix, veut pourquoi pas encore faire résonner pour nous aujourd'hui à travers ces textes, et notamment la parabole. D'ailleurs, entendez un petit peu la conclusion qu'il apporte à ses brebis, peu avant qu'il ne s'adresse d'ailleurs à l'autre groupe, où il leur fait entendre là où elles n'ont pas su être. Je vous laisse aller lire pour vous aussi ce qu'il dit au propos des boucs, mais l'essentiel est dans les brebis. Il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, aux brebis, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. » C'est là où les brebis ne l'ont pas vu. Elles ne l'ont pas vu parce qu'elles ne l'ont pas recherché. Elles ne cherchaient pas à se dire « Tiens, aujourd'hui, pour Jésus, qu'est-ce que je vais faire ? Où il peut être aujourd'hui ? Au carrefour de là ? Est-ce qu'il va me remarquer si je... » J'exagère, hein. Je caricature, mais c'est quand même cela qui est pointé, notamment au niveau des boucs. Eux n'ont cherché à rien faire parce qu'ils ne voyaient pas où le faire, parce qu'ils calculaient, ils cherchaient à trouver les choses. Les brebis, elles n'ont pas cherché à savoir si Jésus les remarquerait dans ce qu'elles feraient. Elles l'ont juste fait. Autrement dit, et par ces mots, par cette conclusion que Jésus, et par cette réponse qui conclut au mystère qui gouverne aux brebis, qui n'ont pas compris ce qui s'est passé pour elles, et qui leur donne ce privilège, cette reconnaissance, par ces mots, notre Seigneur se rappelle à nous. Il nous invite à nous faire aussi ses imitateurs encore aujourd'hui. Non pas par le vain espoir de vouloir gagner ses faveurs par nos actes, voire même d'oser coopérer d'une manière ou d'une autre à ce salut qui nous est donné par grâce seulement. On pourrait dire, on est protestant, ça va, on ne tombera jamais dans le panneau. Je me suis permis de le dire devant un parterre de catholiques, d'orthodoxes et tout ça. Je ne sais pas comment ils l'ont vécu, ils ne sont pas trop venus me voir sur ce point-là. Mais il me semblait bon de rappeler la grâce, parce que c'est un passage. En plus, ils avaient choisi ce verset-là, hein. Il ne fallait pas me donner. Hein. Mais bon, peu importe, nous partageons aussi un même évangile. Mais nous qui nous croyons parfois à l'abri de tout cela, non, nous ne cherchons pas le salut par nos actes et par nos œuvres. Nous ne cherchons, alors peut-être pas à le gagner par cela, mais coopérer peut-être un petit peu, parce que recevoir le salut par grâce, c'est bien, mais après il faut montrer qu'on le fait et qu'on le mérite quand même un petit peu. Donc il faut faire ci, il ne faut pas faire cela. J'exagère, je caricature, mais tout de même, parfois je l'entends encore. Or, pas forcément pour ce genre de choses, ça, on se dit, mais oui, c'est normal. Je reviens à ce que Jésus veut nous dire là. Jésus nous invite à faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, œuvre d'amour. Un mot sur lequel on peut mettre plein de choses. Mais je reviens avec un peu plus de précision, comme je l'ai déjà annoncé, d'un amour désintéressé. Comme d'ailleurs cela doit exister entre couples, je l'espère. Quoique je ne suis pas si sûr aussi qu'on y arrive toujours à ce niveau-là. Mais Jésus nous invite à vivre un amour désintéressé, d'un amour qui se traduit par des actes auprès notamment, bien évidemment, des plus pauvres, des plus démunis, des plus fragiles, des naufragés de ce monde. Cet amour qui donne ou qui partage sans calcul n'est que le fruit qui découle de la présence réelle de Dieu dans nos vies. C'est bien pour ça que Jésus les remarque, parce qu'il était présent dans leur vie qu'ils ont fait preuve de cet amour-là. Ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, les brebis ne sont pas meilleurs que les boucs. C'est juste que la présence de Dieu dans leur vie les a amenés à agir ainsi. Petit à petit, d'une manière désintéressée, qui ne cherchent pas à trouver des récompenses dans leurs actes, qui ne cherchent pas à trouver de la reconnaissance dans tout cela, qui a voulu accueillir le prochain et de le faire sans aucune arrière-pensée. Car oui, cet accueil du prochain est le témoignage rendu de cette vie nouvelle en nous. Et le prochain, alors, c'est tout la difficulté avec le prochain. On ne sait pas où il est. Avez-vous débusqué le prochain ? Non. Le prochain est la personne que Dieu va mettre sur notre chemin. Il est peut-être déjà là, à côté de vous, sur un banc. Vous le connaissez peut-être même déjà depuis un moment, mais il a peut-être besoin de vous aujourd'hui. Il est peut-être cette personne que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, pour rester dans des vieilles expressions, que vous allez croiser demain, soit sur un quai de gare à attendre le RER qui ne viendra jamais, ou je ne sais quoi d'autre. Vous savez à quel point Dieu nous fait des surprises jour après jour. Aussi, mes chers frères et sœurs, et c'est valable pour moi aussi, veillons à être attentifs à ne pas essayer d'agir avec même de tout petits calculs. Tout à l'heure, il avait été question de personnes aimant les mathématiques. Ce ne sont pas les mêmes mathématiques dont je vous parle, je pense que vous le cerner. Mais veillons à ne point agir avec l'espoir même d'un retour, entre guillemets, sur investissement, même tout petit. Ne cherchons même pas les regards ou les félicitations qui pourraient accompagner nos gestes, nos soutiens, notre écoute, y compris même de la personne que nous visitons. Je prends une situation très banale peut-être. Entre frères et sœurs, nous aimons, quand nous sommes attentifs à cela, ou qu'on nous sollicite, aller rendre visite, aller écouter une personne qui peut-être traverse une mauvaise passe, qui a besoin d'être écoutée, qui demande peut-être votre prière. Ou peut-être vous-même, plus encore, vous le discernez. Elle a besoin peut-être que j'aille l'appeler ou que j'aille la visiter. Et peut-être, ça arrive parfois, exceptionnellement, cette personne, parce qu'elle ne va pas bien. Elle va quand même vous parler, mais vous allez prendre le temps de faire le voyage, faire le tour en fait les grèves, les bouchons, j'en sais rien. J'amplifie un peu la chose, juste pour dramatiser là encore, mais sans en faire de trop, j'espère. Vous allez la voir, elle va vous raconter ce qui ne va pas, et cela va prendre du temps. Vous allez peut-être y passer toute une demi-journée, pourquoi pas plus. Et à la fin, vous allez partir, et elle ne vous aura pas dit merci. Aïe. En votre cœur, qu'est-ce qu'on est tenté de se dire ? Bon, si j'avais su, je suis pas sûr que je reviendrai la voir la prochaine fois, parce que vous passez tout ce temps-là, et puis... entre guillemets, d'être remercié de cette manière-là. Bon, sachant qu'en plus, déjà, en temps normal, quand elle va bien, elle est un peu comme ça. Je plaisante, ce genre de cas de figure n'existe pas dans aucune église. Voilà, ça fait tousser. Mais ne regardons pas à cela. Qu'est-ce qu'il y aurait dans notre cœur à ce moment-là ? Et c'est pas facile. C'est pas facile. Parfois, nous sommes tentés, même inconsciemment, d'avoir besoin d'un petit retour, d'un merci, ne serait-ce que ça. Est-ce pour cela que nous visitons la personne ? Est-ce que nous y allons pour qu'en retour de tout ce que j'ai fait pour elle, elle me dise juste merci ? On peut attendre plus encore, mais on va rester sur le minimum requis, le minimum syndical. Elle ne me dit pas merci. Or certes, c'est dur à avaler. On l'a mal, là. Et alors ? Est-ce que cela doit me décourager de me dire « Eh ben, la prochaine fois, dans une semaine ou demain, ça dépend de vos possibilités, de ses possibilités, » on reprendra un temps ensemble si tu le désires. Est-ce que ça va être facile à dire cela ? Juste quand voilà, vous êtes sur le pas de la porte, vous allez partir et qu'allez-vous lui dire ? Pas simple, hein, parfois. Tellement c'est... On a besoin de cela, intrinsèquement. Alors, bien sûr, le merci, pour celui qui est à l'autre côté, c'est bien de le dire quand même, hein. Ne l'oublie pas. Hein. C'est pas parce que l'autre est un frère que vous n'avez pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Remerciez-le. Soyez reconnaissants aussi de ce temps qu'il vous donne. Mais nous, qui peut-être sommes plutôt dans le moment où nous allons visiter, où nous allons soutenir, ou quoi que ce soit d'autre, n'ayons pas à rechercher quoi que ce soit. Ne cherchons surtout pas de récompense. mais à l'image du Christ, œuvrons humblement au bien de ceux que Jésus aime. Qu'il soit mon frère ou ma sœur dans la foi, mais dans le texte ici de la parabole, le mot « petit » ou même « frère » a un sens probablement plus large. Ça peut être cette personne aussi que Dieu me présente et qui ne partage pas, a priori, parce que je ne le connais peut-être pas, ou peut-être, j'en suis sûr, une même foi. Mais le Seigneur nous invite aussi à être des lumières dans ce monde, vis-à-vis de toute personne qui peut être mon prochain. Ne cherchons même pas non plus, alors là je vais parler peut-être d'un point de vue communautaire, même si on ne fonctionne pas comme ça, pleinement, du tout, je l'espère. Ne cherchons même pas à chercher à atteindre des résultats pour ce genre de choses qui nous feraient dire que nous aurions bien agi en tant qu'Église pendant l'année. Bientôt on aura l'âge. Charge à moi et très souvent aussi à Nicolas de revenir vers vous et de nous dire un petit peu ce que nous avons vécu. Mais de nous féliciter de ce que nous avons bien fait par rapport aux uns et aux autres n'est pas chose à faire. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur de ce qu'il a fait parmi nous et de dire c'est bien fait. Attention, nous, de ne pas tomber dans le piège, justement, de dire « waouh ». Bon, surtout que, quand nous le faisons, c'est Dieu qui agit en nous. Donc là aussi, nous ne pouvons que le remercier. Non pas nous sommes des marionnettes, parce que nous sommes conscients que Dieu nous pousse à cela, que nous sommes invités à vivre cela, mais de la manière dont lui l'a vécu pour nous. Donc oui, ne cherchons pas à atteindre des résultats qui nous feraient dire combien nous aurions bien agi pour notre aide et notre secours dans ce monde, dans notre ville, dans notre quartier, ou que sais-je. Mais recherchons plus encore, et premièrement, à vivre la réalité de son royaume de paix. Et je vais user ici d'un mot qui parfois ne se comprend pas de cette même manière. Recherchons, c'est vrai, je l'ai dit vendredi soir, je me permets de le répéter pour les quelques rares qui étaient avec moi à ce temps de l'unité des chrétiens, recherchons à vivre sa justice, à rétablir là où nous sommes, dans les moments où Dieu nous pousse à cela, à rétablir cette justice. Et quand je dis justice, c'est pas on sort les pistoleros et puis à la Charles Bronson ou je sais pas quoi, là, les histoires de justiciers comme on voit dans les années 70, dans certains films, ou même mieux, Clint Eastwood. Oh, il n'est pas mieux en termes de justicier, mais recherchons une justice qui considère l'autre comme plus important que soi. La vraie justice de Dieu, elle se situe là. Cette justice ne peut que d'ailleurs se traduire par des actes empreints d'amour autour de nous, en commençant par ceux que le Seigneur a déposés sur, pour rester un peu dans les imageries des textes que nous avons lus, sur nos propres plages. Vous connaissez Paris-Plage ? Non. Bon, moi, j'y suis jamais allé, j'en ai entendu parler. Ça me fait toujours rire, mais ça existe. Et si vous connaissez, attention, soyez attentifs, hein, Antony-Plage. Ou Chilly Mazarin plage, ou Châtenay-Balabry plage, vous les avez jamais vues? Et bien pourtant, croyez-moi, elles sont là. Si je reste dans une métaphore de ce que nous avons entendu dans le livre des actes, je vais m'expliquer, vous inquiétez pas. Je ne parle pas ici de plage de sable fin. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'à Paris, il y a des plages de sable fin. Pour ceux qui y sont allés, hein, vous me direz après, ce n'est pas la discussion de maintenant. Mais quand j'use du mot plage ici, c'est par métaphore de ces endroits où erre, entre guillemets, même là encore je suis dans l'imagerie, où tentent à se réfugier des personnes. Des personnes peut-être opprimées, ou plus simplement encore des méprisés. Soit en raison de ce qu'ils ont pu vivre, de leur situation au sein de leur foyer, de leur situation sociale. Ou quoi d'autre encore? Il y a tellement de choses qui amènent les gens à être méprisés, à être résignés, à ne pas avoir d'espérance, tout simplement. Quand je dis plage, je vise cela, ces situations de personnes qui très souvent sont pas loin de chez nous. À Malte, ils ont eu juste à descendre sur la rive et ils ont trouvé des réfugiés, avec Paul d'ailleurs. Mais croyez-moi, des Antony plage, des Châtenay-Malabry plage, il y en a, dans le sens où pas loin de chez vous, peut-être juste à côté de chez vous, il y a aussi des gens qui pourrait être au bénéfice d'un, je reprends l'expression, mais dans tout le sens qu'elle peut avoir en termes de foi, d'un accueil bienveillant, peu ordinaire. Car c'est ce que nous sommes invités aussi à témoigner. Et c'est là que nous devons aller, sur ces plages-là, c'est là qu'il nous faut rendre pour apporter, en fonction de nos dons aussi, hein, Chaleur, pas besoin de chercher du bois et de faire un feu, hein. Ici dans la région c'est compliqué en plus, pas trop permis, mais d'apporter du soin, d'apporter une écoute, de répondre aux besoins de ceux que Dieu aime. Et que d'ailleurs il nous invite à aimer à sa suite. Et des personnes ainsi, il y en a peut-être déjà parmi nous. Alors bien sûr, nous sommes invités premièrement à être attentifs à eux, mais pas exclusivement à eux, même si nous devons commencer par là, parce que notre témoignage serait insipide si on dit on a envie d'aller prendre soin du monde parce qu'il nous faut dire l'évangile, mais les nôtres, une fois qu'ils sont gagnés à l'évangile, à quoi bon, quoi? Le principal est fait. Alors là, je caricature. Bien sûr, soyons attentifs. Et je vais conclure par un questionnement, mais sommes-nous prêts à répondre en tant qu'enfant de Dieu? Et quand je dis enfant de Dieu, je parle de nous qui avons déjà été accueillis, adoptés par le Père Céleste dans son royaume. Car pour rester un petit peu dans le langage des deux textes que nous avons lus, en tant que pécheurs, quand nous étions encore, peut-être que nous le sommes plus ou moins encore, loin de Dieu, nous étions aussi tels les réfugiés. Nous avons besoin de son soin. Nous avions besoin d'être guéris, d'être sauvés tout simplement. Car malheureusement, le sort de l'homme sans Dieu, c'est cela. Il erre sur une plage, comme échoué sur un rivage. Il n'a pas de bouée de secours, même si peut-être voilà, il a trouvé un sol sur lequel il peut continuer d'espérer quelque chose, mais il ne va pas aller loin. Sommes-nous prêts à répondre en tant qu'enfant de Dieu? Christ est bien évidemment celui qui nous a accueillis le premier. Rappelez-vous ce qu'il a accompli, il est venu à notre rencontre. Il s'est fait homme pour cela. Il a partagé notre condition. Par ce qu'il a dit, par ce qu'il a fait quand il était parmi les hommes, il a nourri, rassasié des foules entières, à commencer par ses disciples. Et aujourd'hui encore, par son esprit, il continue par sa divine présence de nous faire, de nous mettre au profit, au bénéfice, de prendre soin de nous rassasier, de nous donner cette nourriture dont nous avons besoin en premier. Et en plus, il pourvoit nos besoins matériels, hein. Cela n'empêche rien. Pour le dire encore un tout petit peu autrement, nous qui étions orphelins, errants dans ce monde, un monde d'ailleurs déchu, toujours en pleine tempête, pour rester dans des images, Jésus est venu à notre rencontre pour nous présenter son Père, afin que nous goûtions à son amour. Il nous a intégrés à cette famille, pour que nous ne soyons plus seuls, en désespérance, mais que nous puissions fermement nous attacher à cette espérance de savoir qu'il y a pour nous un Dieu bienveillant. Un Dieu qui nous a témoigné d'une bienveillance peu ordinaire. Bien moins ordinaire encore que celle des Maltais, qui pourtant déjà était plutôt exceptionnelle, même à cette époque-là. N'avons-nous pas le souhait de partager cette même espérance en témoignant, en communiquant cet amour qui donne sans retour, là où Dieu nous y invite. Je m'arrête sur cette question-là. Et je vous propose juste peut-être, comme j'aime à vous le proposer moi, de faire un court temps de silence. Et si effectivement, dans les secondes de ce silence, certains veulent glorifier Dieu, le remercier de ce qu'il a fait pour nous et de ce qu'il nous invite à vivre en raison de sa présence en nous, alors que vous puissiez le dire aussi par votre prière. Seigneur, je tiens à te remercier pour ta bienveillance, celle que tu as manifestée et témoignée, notamment par la vie et le ministère de ton Fils Jésus pour nous. Seigneur, merci parce que tu témoignes au quotidien dans notre existence de ton bon soin, de cette bienveillance, de cette chaleur que tu places et mets dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, merci parce que tout simplement tu nous aimes et tu nous as aimés sans détour, sans retour, sans volonté de négocier cela avec nous. Tu l'as fait parce que en plus nous ne le méritions pas. Et nous ne pouvions le mériter. Mais toi, tu nous as aimés par-dessus tout. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui nous avons, grâce à toi, grâce à ton amour, l'espérance de ce salut. L'espérance que même si aujourd'hui peut-être nous sommes amenés encore à souffrir quelque peu, et même si cela est parfois beaucoup, de savoir que ce royaume où seront accueillis tes brebis nous est promis. Mais Seigneur, puisque tu as fait de nous tes brebis, puisses-tu encore transformer nos cœurs pour que nous puissions nous aussi, tel toi, aimer sans retour. Que nous puissions apprendre à aimer comme toi tu nous as aimés, à ne pas retenir notre amour, cet amour que toi tu nous as montré et manifesté. Seigneur, oui, il nous sera toujours difficile encore aujourd'hui d'aimer pleinement comme toi tu nous as aimés pleinement, mais Seigneur, montre-nous encore. Puisses-tu nous donner et offrir des occasions qui nous permettront de cheminer, d'avancer. Montre-nous encore quel frère, quel petit, que toi tu aimes et que tu m'invites aussi à apprendre à aimer. Seigneur, toi qui as fait de nous un peuple, fais de nous un peuple à même de nous aimer les uns les autres un peu plus demain et après-demain. Car c'est là, Seigneur, peut-être le plus beau des témoignages que nous pouvons nous rendre les uns les autres et qui te glorifie, toi. Et un témoignage aussi qui sera vrai et véritable devant le monde. Seigneur, nous savons à quel point aussi les crises déchirent et dévorent des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards dans ce monde. Peut-être parfois nous avons encore tendance à tourner le dos à des personnes qui aujourd'hui traversent cela plus encore que nous l'imaginons. Donne-nous d'être sensibles à cela. Donne-nous d'oser peut-être aller un peu plus vers cela. Juste pour les aimer, juste pour leur témoigner de ce que toi tu as témoigné. Sans chercher quoi que ce soit de leur part, mais simplement d'être un digne témoin de ton amour pour eux. Seigneur, aide-nous à grandir, aide-nous à nous faire tes imitateurs, aujourd'hui comme demain. Et Seigneur, merci parce que je sais que déjà tu y travailles, que tu nous invites plus encore à grandir sur ce chemin en raison de ce don que tu nous as fait, de cette présence manifeste de ton esprit en nous. Aide-nous à mieux l'écouter, à ne point le faire taire, à le laisser encore nous parler, à le laisser encore nous exhorter, nous encourager. Ainsi que parfois aussi en nous, dans nos propres petits défauts, nos propres hésitations, nos propres peurs. Retiens aussi nos élans d'amour pour ce que tu places devant nous. Seigneur, oui, c'est dans ton nom que je te remets cette prière pour chacun d'entre nous. Amen. Je me tourne vers Osnel. Je voulais savoir si nous faisons le temps de présentation maintenant ou tu avais quelque chose avant, parce que je n'ai pas vu là, le déroulé. Je continue, merci. Alors, tout à l'heure, c'est vrai qu'Osnel a parlé de Noah. Alors, tout à l'heure, j'ai vu qu'il était arrivé. Ben, les voilà. Je les invite à s'approcher de moi. Tant Nature que Cathy et surtout ce cher Noah. Rapprochez-vous, venez à côté de moi. Aujourd'hui encore est un jour de joie, un jour où nous voulons aussi accueillir un peu plus. Ce cher Noah qui vous regarde là, je ne vais pas chercher à le porter, j'ai l'eau qui en compote, et puis on m'a dit qu'il était costaud. Alors je le laisse au bras solide de son papa, je crois que c'est beaucoup plus sage. Et aujourd'hui, en ce jour où, d'ailleurs, nous sommes tous là réunis pour glorifier notre Père Céleste, et ben voilà, vous voyez, il témoigne aussi de sa joie. La famille Mbaki souhaite elle aussi témoigner de la bonté de Dieu. Elle souhaite rendre grâce au Seigneur suite à la naissance de leur fils, Noah. Voyez-le. Aussi célébrons l'Éternel car il est bon, parce que son amour dure toujours. Et aujourd'hui, vous qui êtes là, parents, amis, grands-parents, proches, frères et sœurs dans la foi, soyez dans la joie. Oh, laissez-le parler, vraiment. Ce sont les moments où il faut laisser les enfants s'exprimer. Il n'y a aucun souci. Soyez vous tous dans la joie en présentant cet enfant au Seigneur. Nous disons un grand merci au Créateur de la vie qui nous appelle à vivre pour lui. Et nous demandons à Jésus-Christ de bénir ce cher Noah, cet enfant, pour qu'il devienne à son tour, déjà aujourd'hui, parce qu'ils le savent, et pour demain, pour beaucoup plus encore, une bénédiction. Que Jésus invite son Église à désirer l'aide de la parole, comme un nouveau-né, pour que tous puissent grandir dans la connaissance du Sauveur. Notre Dieu et Père est l'auteur de tout ce qui vit. Aussi ce matin, nous voulons le louer pour la joie de vivre et l'émerveillement face à sa création. Nous voulons lui dire merci pour le don généreux et la vie de cet enfant, ainsi que le privilège aussi donné tant à Cathy qu'à Nature d'être parents. Seigneur, entends la reconnaissance et la louange. Voilà, prends le crocodile. Il a l'air sympa aussi celui-là. C'est comme tu veux. Le verset qui a été choisi par les parents de Noah est ce verset qui se trouve en 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Écoutez-le simplement. Qui dit ceci. Remerciez Dieu en toutes circonstances. Telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. Et je vais laisser, je crois, Cathy qui va nous dire aussi ce que pour eux, aujourd'hui, signifie ce verset plus particulièrement par rapport au don de cette vie, au don de cet enfant qu'est Noah.
Bonjour à tous. Pour moi, c'est une immense joie et une immense fierté de vous présenter Noah ce matin. Je voulais juste dire un petit mot. Je dis merci au Seigneur de nous avoir donné, de nous avoir fait grâce pour l'arrivée de notre enfant. Ça a été un sujet de prière pendant longtemps. Et on vous demanderait également de porter vos prières pour nous, de nous encourager dans notre vie de tous les jours. Élever un enfant, c'est la course. Mais on vous demanderait de nous porter dans vos prières et de nous aider aussi dans son éducation spirituelle. Que le Seigneur vous bénisse tous.
Je maintenant vais me tourner vers les parents. Je ne les ai pas trop préparés à ça, mais j'aime bien quand c'est un peu spontané aussi. Mais vous inquiétez pas, hein, rien de grave. Je viens vers vous et en commençant ainsi. Le Dieu qui fait alliance avec nous se réjouit aujourd'hui. Car tous deux, vous avez décidé de vous tourner vers lui de nouveau. Et c'est pourquoi en son nom, ensemble en tant qu'Église, nous vous demandons, déclarez-vous mettre votre confiance en Dieu, le Père de toute vie humaine, en Jésus-Christ, le Sauveur et Seigneur de votre famille, et en l'Esprit Saint, source de paix et de joie. Voilà, oui. Vous en faites pas, vous êtes libre de la réponse, du moins que j'entends quelque chose qui dit oui. Mais vous le savez, j'ai pas besoin de vous corriger. Je reviens encore, j'ai une ou deux petites choses encore à vous demander, mais vous allez voir, rien encore là de bien sorcier. Ferez-vous en sorte que cet enfant reçoive l'exemple chrétien à la maison et dans la vie familiale? Promettez-vous de participer régulièrement au culte de votre église, de profiter en tant que possible de la formation et du partage biblique qui est vécu, j'ai cru l'entendre dire déjà, d'accepter le soutien et la prière de vos frères en Christ, alors que le Seigneur dirige vos pas et protège votre foyer, qu'il vous garde tous trois. Et je vais appeler déjà les deux frères qui ont été sollicités pour prier pour eux. Alors, je les regarde, mais si. Ah ben, ce sont les parents qui vont solliciter, c'est pas moi, hein. Donc vous ne pouvez pas refuser cela. Jean, Simon, s'il vous plaît, venez. Mais avant cela, et pendant que vous vous approchez, venez. Je reprends cette parole du livre des Nombres. En la modifiant un tout petit peu et en l'adaptant à la circonstance. Que le Seigneur, mon cher Noah, te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi et t'accorde sa grâce. Oui, que le Seigneur tourne sa face vers toi et donne la paix. C'est là notre vœu le plus cher à nous tous en tant qu'Église, pour toi et bien sûr aussi pour tes parents qui vont t'accompagner sur ce chemin de vie. Et je vous invite, vous tous qui êtes là, témoins aussi de cette présentation de Noah, à vous lever pour vous associer à la prière de nos deux frères qui vont se tenir aux côtés de cette famille et qui vont demander la bénédiction de notre Dieu et Créateur sur et ses parents et Noah.
La lumière luise dans sa vie, afin qu'il puisse éclairer les pas de tous ceux qui nous auront rencontrés, même dans un futur lointain. Oui, Père, nous voulons te remettre aussi, Nature et Cathy. Nous voulons te demander, Seigneur, de leur donner la sagesse, l'intelligence nécessaire. Bien prendre du temps pour bien enseigner le petit Noah, bien l'éduquer, Seigneur. Oui, c'est la prière que nous adressons dans la cause de nos œuvres, dans le nom de Christ Jésus. Amen.
Le Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous t'avons remis la famille, nous t'avons remis Noah, Cathy et Mathieu devant toi, afin que nous notre Église, Seigneur, puisse être aussi un modèle devant lui, Et Seigneur, qu'il apprenne par notre comportement, par notre manière de vivre et d'agir, qu'on lui serve aussi, Seigneur, de témoin et de modèle. Donne-nous, Seigneur, de ne pas oublier ceci, de ne pas oublier qu'aujourd'hui on a prié pour lui, de ne pas oublier de continuer à prier pour toute la famille, Seigneur. Et qu'on reste vraiment, Seigneur, un modèle en toutes choses.
Amen. Voilà. On va laisser Noah aller retrouver un banc plus calme, plus paisible et moins sous le regard de chacun. Je vous invite tous à vous rasseoir. Non, n'oublions pas de continuer de remettre dans la prière, et bien sûr Noah et ses parents, toutes ces familles aussi où de jeunes enfants sont là, de remettre aussi les mamans et les papas qui bientôt seront parents. Je pense aussi à tous ces enfants qui vont encore nous être donnés et qui vont faire la joie surtout premièrement de leurs parents. Vraiment, pensons à prier cela, car nous savons à quel point c'est une bénédiction et parfois des réponses à des prières aussi. Voilà. Je vais laisser la place à Osnel qui va nous conduire dans... Ah non, bah...